L'entité responsable du nettoyement public, c'est la ville de Paris. Avec une particularité, les services municipaux sont gérés par le préfet de la Seine jusqu'à 1977 et après 1977 par le maire, la mairie de Paris. Paris a un maire, Jacques Chirac d'abord, qui est maire de 1995 à 2001, puis Jean Tiberi, et voilà, c'est les deux maires que je vais, leurs quatre mandatures en tout que je vais étudier. J'ai travaillé à partir des sources de la ville de Paris. Alors, j'ai utilisé quelques articles de presse, mais surtout des documents administratifs et principalement le bulletin municipal officiel, donc où on trouve les délibérations et les débats du conseil municipal. Et l'intérêt, c'est qu'on y trouve des informations administratives, mais aussi techniques, ainsi que sur le personnel. Je vais parler des éboueurs de Paris aussi dans ma contribution, sachant que les éboueurs, alors c'est plus le nom des entrepreneurs comme à l'époque moderne, c'est les ouvriers qui vraiment ramassent les ordures et balayent. Et je verrai leur relation avec les usagers. Alors justement, qui sont les usagers dont je vais parler pour le deuxième 20e siècle? Ce sont à Paris les habitants riverains, mais aussi les passants, qui ne sont pas forcément des résidents parisiens. Par exemple, les travailleurs qui habitent en banlieue ou les touristes, puisque Paris est une ville très touristique, hein, touristes provinciaux ou venus de l'étranger. Donc ce n'est pas seulement des propriétaires, plus des propriétaires ou des principaux locataires comme à l'époque moderne qui vont apparaître dans cette contribution. C'est des riverains, mais aussi des passants. Donc je propose de réfléchir autour du terme du titre, quelle participation des usagers, sachant que la première participation, c'est la production de salissures, production d'ordures. Comme ça, hein, d'abord qu'il faut l'entendre. Participation financière, je vais en parler aussi, peut-être de manière moins pointue que vous ne l'avez fait pour l'époque moderne, mais je vais donner des éléments sur les contributions, la contribution fiscale des usagers dans le second 20e siècle. Les usagers sont aussi ceux pour qui on rend l'espace propre. Donc je vais me demander, est-ce qu'on les fait participer à la définition des tâches et des exigences? Est-ce que la ville prend leur avis? Et je vais montrer qu'il y a une évolution dans les dernières décennies. Et c'est lié à la dimension électorale, au fait qu'il y a un maire qui ait été élu entre-temps. Et il y a aussi une dimension civique, puisque les usagers, c'est des citoyens à qui on demande de respecter la propreté. Donc la participation, elle est d'abord passive, on demande de ne pas salir, de respecter ce que font les éboueurs municipaux. Mais on va voir que là aussi, il y a une évolution vers une participation active. On demande aux usagers de participer à l'effort de propreté. Donc, la contribution va essayer de montrer cette participation accrue, va aussi essayer de voir comment s'articulent les rôles des usagers, puisque parfois, c'est des usagers contribuables et électeurs, à d'autres moments, des citoyens à qui on demande de participer à la propreté. Donc ça peut être en contradiction et je vais essayer de voir comment ces différents rôles s'articulent. Et je rappelle à chaque fois, je vais voir ça en lien avec l'action municipale, en ne me centrant pas que sur les usagers. La question m'a conduite à isoler deux périodes, à faire deux parties chronologiques. L'une des années 50 aux années 70, qui va être traitée plus vite que les années 80-90, puisqu'elles sont plus importantes pour le thème. Donc une première partie évoquera la période qui va des années 50 aux années 70 pour en gros présenter le fonctionnement du nettoyement parisien et les difficultés. Et on verra qu'à cette époque-là, les usagers sont uniquement en filigrane. Et la deuxième partie, un peu plus longue, montrera la participation des usagers, une participation accrue depuis les années 80. Donc des années 50 à la fin des années 70, le nettoyement de Paris, un nettoyement qui connaît des difficultés. Et quelques mots alors du cadre administratif et réglementaire pour comparer notamment avec l'époque moderne et voir que c'est un service qui œuvre en coulisses. Le nettoyage des rues, des places, des boulevards à Paris. Alors je ne rentre pas dans les détails mais je peux y revenir dans la discussion sur justement la séparation, où est-ce que commence, où est-ce que s'arrêtent exactement les tâches. En gros là c'est tous les espaces découverts, tout ce qui n'est pas souterrain, hormis les voies privées et hormis les parcs et jardins. Donc le nettoyage des rues est public depuis la seconde moitié du 20e siècle, du 19e siècle, excusez-moi, plus exactement depuis que le baron Haussmann, qui était préfet de la Seine sous le Second Empire, a confié la propreté des rues à la préfecture de la Seine. Donc c'est plus la lieutenant de police, c'est plus la préfecture de police, c'est le préfet de la Seine qui a en charge les affaires municipales et donc le nettoiement. Dans les années 50, le nettoiement donc dépend de la direction de la voirie et il a deux missions principales. La collecte des ordures ménagères. Alors, il y a à l'époque 2 millions d'habitants à Paris, donc je redirai les chiffres, c'est un volume très important. Ça valait jusqu'à 1 million de tonnes d'ordures dans les années 60. Et ces éboueurs, en plus de collecter, doivent ensuite nettoyer les rues de Paris. Je précise que les tâches sont réalisées dans le territoire de Paris intramuros, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas du tout en banlieue. La banlieue n'est prise en compte que pour recevoir les déchets dans les usines. En fonction du règlement sanitaire, il revient à l'autorité préfectorale de fixer les modalités de nettoiement. Donc c'est un texte qui existe depuis la fin du XIXe siècle. Chaque préfet ensuite note à l'intérieur à quelle heure on doit sortir les poubelles, quels récipients utiliser. À Paris, c'est le préfet poubelle qui a commencé à fixer ça en 1883-1884. Dans cette période, donc durant les Trente Glorieuses, il y a environ 4000 éboueurs qui sont disséminés dans Paris. Alors, je suis désolée, je n'ai pas fait de carte, mais voilà, ils sont répartis dans les ateliers. Il y en a une centaine, dans à peu près tout, répartis de manière équitable dans tous les arrondissements pour justement assurer la proximité due par le service public. Le travail commence très tôt le matin. La collecte a lieu de 6h à peu près 9h-9h30. Une fois qu'ils ont fini, après une pause, les éboueurs continuent par du balayage et le déblayage des marchés jusque dans l'après-midi. Il n'en reste pas moins que même s'ils travaillent en journée, la ville de Paris joue plutôt la carte de la discrétion. Pourquoi est-ce que la collecte a lieu si tôt ? C'est pour ne pas encombrer les rues, mais aussi pour manipuler le sale en coulisses. Les éboueurs sont pris dans le mouvement. L'un d'eux raconte, je le cite, « Il fallait que le service se cache parce qu'on était des moches, on était des malpropres, on était des sales du nettoiement. » Leurs locaux, dit un responsable, je le cite, ne pouvaient être intégrés aux immeubles bourgeois et devaient se terrer dans le sous-sol des voies publiques avec des trappes discrètes dissimulant ces lieux aux yeux des Parisiens. Alors c'est parce que l'image est l'activité est dévalorisée, mais aussi parce qu'à l'époque, le service connaît des difficultés. Au tournant des années 50-60, ce sont d'abord les élus qui s'émeuvent de la saleté des rues de la capitale. Un élu dit... Il a une réputation dont les Parisiens se passeraient volontiers, c'est que leur ville soit considérée comme la plus sale du monde, selon l'expression de certains journaux. Sans reprendre cette expression extrême, il faut bien reconnaître que les rues de notre cité ne brillent pas par leur propreté. Dès cette époque, les élus mettent en cause l'indiscipline de la population. Certains donc parlent de sa négligence et de son laisser-aller. Ils proposent des mesures pour que les usagers se montrent plus civiques. Le préfet de la Seine décide en 1958 la création du CAPP, Centre d'action pour la propreté de Paris. Et ce CAPP organise des campagnes de propreté. Alors, je montrerai des affiches, mais pour la période mairie, donc plus tardivement. Mais donc, dès cette époque, on a des campagnes d'affichage dans Paris. Assez timide, selon un élu, je le cite, on est en 1963. Tout cela est discret, effacé, comme si nous avions honte de ce que nous disions. Une autre source de la même année tend à montrer que les élus n'en sont pas encore à penser qu'il faille totalement impliquer le public. Puisque dans une brochure administrative, un ingénieur écrit « Le propre du service public est de satisfaire les besoins, quelles que soient les circonstances, et notamment en dehors de toute collaboration des usagers. De ce point de vue, les services de nettoiement sont sans doute parmi ceux pour lesquels cette règle est la plus absolue. » Ou à cette époque, voilà, on critique l'indifférence de la population, l'incivisme, lui demande de respecter la propreté, mais on ne l'implique pas encore totalement. De plus, les problèmes du service n'est pas que lié à la population, loin s'en faut. C'est surtout lié aux Trente Glorieuses, parce que vous le savez, la croissance voit la hausse des niveaux de vie, l'essor de la consommation et par suite des déchets. En 1962, le service parisien ramasse 850 000 tonnes d'ordures et 1 million en 1968. Donc une forte croissance du nombre d'ordures collectées. Donc c'est plus difficile de les collecter. C'est aussi plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de voitures dans les rues, soit en circulation ou en stationnement. Les conditions de travail des éboueurs sont de pire en pire. Voilà, ils collectent encore à la main. Donc ils portent la poubelle sur l'épaule, ils la déversent. En général, il n'y a pas de couvercle. On ne voit pas très bien, mais ils n'ont pas une tenue très adaptée. Bon, là, il a des gants, mais ce n'était pas toujours le cas. Et en plus, donc, non seulement les poubelles sont vidées à la main, mais les bennes n'arrivent plus à aspirer les ordures. Donc, souvent, il faut que les éboueurs montent et poussent avec leurs pieds pour faire rentrer donc, toutes les ordures qu'ils ont à collecter. Donc, vous voyez, des conditions difficiles, un métier difficile par nature, et aussi des salaires que les élus qualifient de salaires de misère. Du coup, à cette époque... Personne ne veut devenir éboueur à Paris. La solution trouvée par la municipalité, c'est de recourir à des éboueurs étrangers, en très grande majorité d'origine africaine. Comme ils sont étrangers, ils ne peuvent pas être fonctionnaires. Donc, ils sont non titulaires, on les appelle saisonniers, même s'ils font toute leur carrière à la ville. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester des années, mais sinon on les appelle saisonniers. Ils sont 50% des éboueurs en 66 et ils sont environ les trois quarts des éboueurs dans les années 70. Ils font le même travail que les titulaires, mais ils ont des salaires inférieurs. Ils n'ont pas de garantie de l'emploi. Et même, alors là, c'est l'été, donc ils ne portent pas la veste de cuir, mais les titulaires, ils avaient droit à une veste de cuir, les saisonniers, non. Ils venaient avec leurs propres vêtements. Donc, ils vont faire des grandes grèves à partir de 1968. Ils font des grandes grèves tous les deux ans, 70, 72, 74, 76, 77, 78, pour voir améliorer leur situation. Ils réussissent, aussi parce que les grèves des éboueurs sont un moyen de pression très efficace. Je cite deux sociologues en 78. Le mécontentement du public, les photos dans les journaux, les dangers pour l'hygiène vont contribuer à mettre en accusation les décideurs et à les presser d'agir. La presse titre donc sur les grèves des éboueurs. Paris est présenté comme un vaste dépotoir, je cite. On montre donc les ordures, les rats. Alors, donc on critique ces éboueurs souvent en grève, mais en même temps il y a une certaine bienveillance, puisque hein, c'est un journaliste de La Croix qui appelle ces saisonniers les parias de la voirie française. Il n'empêche, les grandes grèves contribuent à l'image d'une propreté non maîtrisée au milieu des années 70, moment hein, où va intervenir de grands changements à Paris. Donc depuis les années 80, la place accrue des usagers. Et je vais revenir hein, alors sur la prise en compte de leur avis, la participation à l'effort de propreté, mais cela en plusieurs temps. Donc à partir de cette époque, il s'agit d'assurer la propreté en satisfaisant l'usager. Et c'est le but de la bataille de la propreté sous le premier mandat de Jacques Chirac. Donc, je vous l'ai dit, Paris n'avait pas de maire jusqu'à 77. Jacques Chirac est élu lors de ce printemps-là. Et dans sa campagne, il avait fait il y avait trois mots-clés. Alors, c'était sécurité, personnes âgées, propreté. Puisque justement, il se basait sur les grandes grèves, sur la situation des saisonniers, le fait que la ville de Paris était régulièrement couverte d'ordures. Et il citait un sondage, enfin, c'est pas lui, c'est son adjoint, qui dit au printemps 77, la propreté est assurément l'une des revendications essentielles des habitants de Paris qui émettent, selon un sondage, des doutes sur la propreté de la ville. De plus, Jacques Chirac a conscience que la propreté est une vitrine électorale et donc il va lancer dès 1979 ce qu'il appelle, enfin, ce que la mairie appelle la grande bataille de la propreté. Or, elle consiste en quoi, cette grande bataille ? À la place de l'ancien service qui dépendait de la voirie, on crée une direction que pour la propreté de Paris. Ensuite, la collecte est mécanisée. Donc maintenant, ce n'est plus les éboueurs qui portent sur l'épaule les poubelles. Elles sont déversées automatiquement dans la benne. Jacques Chirac et son équipe perçoivent l'intérêt qu'il y a à rendre visibles les changements. Ils décident l'adoption d'une couleur emblématique, le vert qu'on appelle bambou. Et donc cette teinte-là avait été choisie parce que c'était l'écologie, c'était le vert, c'était le propre. Et donc voilà, ils vont communiquer, ils vont mettre du vert bambou partout, sur les engins, les balais, et bientôt sur les uniformes des éboueurs. Donc c'est après 82, le balayeur est encore en tenue bleue, bientôt il sera en vert. Le but est que les Parisiens associent au premier coup d'œil ce vert à l'action de la mairie. C'est un peu un rappel subliminal. Le sociologue Henri-Pierre Jeudy parle d'un spectacle du propre, qui passe aussi par la modernisation des engins, tels les motocrottes, conçus pour attirer le regard. Alors, officiellement, c'est des caninettes, mais hein, la presse les a appelées motocrottes. Là, c'est en 1999. Donc, le but, voilà, c'est qu'on les voit au travail, qu'on voit ce que fait la mairie pour les usagers, pour la propreté de Paris. Ils les ont arrêtés depuis, ça ne fonctionnait pas. La satisfaction de l'usager électeur est recherchée, mais aussi celle de l'usager contribuable. Et c'est pour ça qu'ils vont essayer d'optimiser le coût du nettoiement, ils vont privatiser. Alors, quelques mots, justement, sur les recettes de la direction. À 95%, ça vient de deux taxes. Tout d'abord, de la taxe de balayage, instaurée en 1873. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Auparavant, c'était les riverains qui devaient balayer devant leur porte, donc jusqu'à le trottoir, sauf s'il excédait 6 mètres. Mais comme ils ne le faisaient pas, donc la préfecture l'a remplacée par une taxe, une contribution directe. Alors, elle ne tient pas compte, je cite, de la valeur des propriétés, mais seulement des nécessités de la circulation. En gros, plus une rue est fréquentée, plus elle va être classée haut et la taxe va être élevée pour les habitants riverains, même si c'est une rue dans un quartier populaire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle, en revanche, dépend de la valeur de la propriété puisqu'elle repose sur la taxe foncière. important, elle ne dépend pas du volume d'ordures jetées. Ce n'est pas le pollueur-payeur à cette époque-là, à Paris, toujours pas. Quand il a été élu, Jacques Chirac a trouvé une situation financière plutôt saine. Donc, il a pu maintenir à Paris une fiscalité modérée. Proportionnellement, les Parisiens sont moins taxés que dans les autres villes françaises, il faut le savoir. Il n'empêche, je cite, hein, c'est dans Les Échos, c'est un article de 95, mais qui parle du début des années 80. En 81, les Parisiens critiquent fortement le poids des impôts locaux. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se manifestent dans les urnes. Donc on va essayer de faire en sorte d'abaisser les dépenses de la ville, et notamment le nettoiement. Parce que la collecte, notamment, coûte très cher à Paris, parce qu'elle est municipale. Donc l'idée de Jacques Chirac, alors, c'est une des raisons, il y en a d'autres à cette époque, hein, il est à la tête de l'opposition de droite, il lance en fait des privatisations qu'il fera ensuite comme Premier ministre en 86, mais Paris, en gros, c'est son terrain d'expérimentation. Et donc il pense qu'à Paris, s'il privatise la collecte, ça va baisser le coût par la mise en concurrence de la régie. Donc son équipe commence la privatisation en 83. Au final, c'est la moitié des arrondissements parisiens, et encore aujourd'hui, qui sont collectés par le privé. Et en fait, c'est depuis 90 que c'est moitié-moitié. Donc en 83, ça commence, ça s'étend progressivement. D'autres tâches sont privatisées, comme par exemple les conteneurs à verre. C'est aussi le privé qui vide les colonnes de verre. Notons que même si la mairie est satisfaite de son système mixte privé-public, elle ne l'affiche pas. Par exemple, les bennes privées sont aussi de couleur verte. L'idée, encore une fois, c'est que les Parisiens voient que c'est la mairie qui s'occupe de leur propreté. Pour nettoyer au plus juste, une autre intervention intervient dans les années 80. La municipalité décide d'ajuster le nettoyage aux besoins des arrondissements et à la vie des usagers. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais passer sur adapter aux besoins des arrondissements. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, au début, c'est des sondages ponctuels. Et puis, à partir de 84, la mairie institue ce qu'elle appelle le baromètre de propreté. Tous les ans, on appelle des Parisiens, des enquêteurs appellent des Parisiens au téléphone et demandent de noter ce que fait la mairie en matière de propreté. Déjection canine dans votre quartier, de 0 à 10. Collecte des ordures, de 0 à 10. En général, la collecte, c'est 8. Déjection canine, c'est 4 sur 10. Et donc, ils suivent les jugements comme ça des Parisiens. Le but, c'est que la mairie donc puisse connaître les avis des usagers, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les efforts à faire. Le fait de préparer les actions municipales, puis de vérifier leur efficacité en prenant l'avis des usagers, contribue à apparenter le service municipal à un service client. De nouveaux pas sont franchis à la fin des années 80. Des responsables de la direction, dans une brochure, enfin, dans un article, peu importe, parlent, alors c'est entre guillemets, mais quand même c'est révélateur, des clients usagers du service public. De même, à Paris, depuis 69, il y a un numéro de téléphone qui s'appelle Allo Propreté. On téléphone, si on a un meuble à emporter, les éboueurs viennent et l'emportent sur rendez-vous. En 1990, Jacques Chirac annonce qu'il va devenir, je cite, un véritable service client auprès duquel chaque Parisien pourra en direct exprimer sa demande ou faire part de son avis. Autre élément suggérant le glissement vers le service client, le fait que la mairie veuille une propreté qui soit constante et offrir un service réactif. Ainsi, l'ancien service du nettoiement, c'était de 6h à 17h. Dans les années plus récentes, c'est en continu. Pratiquement jour et nuit. Dès qu'il le faut, il y a même des éboueurs qui sont spécialement chargés en permanence d'intervenir dès qu'il y a une manifestation, vite ils se déplacent pour nettoyer. Donc une réactivité très forte. Et ça, la mairie l'explique, c'est aussi le recours au privé, puisque c'est le privé qui intervient un peu à toutes les heures, parce qu'il y a une souplesse des horaires que n'ont pas les agents municipaux. Et par exemple, la collecte en soirée à Paris, c'est le privé qui le fait. Les municipaux restent le matin. On ne peut toutefois conclure au fait que les usagers soient devenus des clients, puisqu'en même temps, ils restent des citoyens et il y a une dimension civique qui reste très forte dans le même temps. Donc, j'ai parlé dans un premier temps de l'appel au civisme quasi constant que fait la municipalité et des usagers responsabilisés. Donc, on a vu, les campagnes de propreté sont anciennes, hein, depuis au moins 1958, je pense peut-être même dans l'avant-guerre, hein, c'est une période que je n'ai pas étudiée. Quand la mairie arrive, elle continue ses campagnes et elle les intensifie. Des flashs sont projetés dans les cinémas, des affiches sont collées partout, dans les musées, dans les commissariats, dans les bibliothèques. Certains publics sont particulièrement visés, les enfants, les concierges et les propriétaires de chiens. faut savoir que les déjections canines, c'est un problème insoluble. Alors, pour ne prendre que les débats des élus, ils en parlent en permanence. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un gros débat sur les déjections canines. J'ai sélectionné une citation de 1999 où une élue parle de véritable honte pour Paris, de sujet qui revient sans cesse dans nos permanences d'élus, comme dans les réflexions des visiteurs étrangers et provinciaux. Pourtant, la mairie ne ménage pas ses efforts. Elle a par exemple acheté des motocrottes qui coûtent très cher. Et elle a hésité parce qu'elle s'est dit « autant on peut faire un effort pour tous les usagers ». Autant payer cher pour des gens qui sont la cause identifiée de sa lissure, voilà, on sent qu'elle a hésité un petit peu. Du coup, en parallèle, elle responsabilise les maîtres de chiens. Donc au début, elle lui dit « amenez-le dans le caniveau ». Ça, c'est au début des années 80. Et là, vous avez une campagne de 1992. « Plutôt que de payer 600 francs, ramassez ou apprenez-lui le caniveau ». Mais la nouveauté aussi, c'est le « ramasser ». Pour la première fois, on demande aux propriétaires de chiens, de même, hein, et on le voit pour les plus civiques, ramasser l'aide de sachet, les déjections de leurs animaux. Et donc, on voit que les usagers doivent de plus en plus participer activement à l'effort de propreté. On n'est plus seulement dans le respect des actions de la mairie, on est dans la participation active. Ça se voit donc dans le slogan dont j'ai parlé, « Une ville propre, c'est l'affaire de tous », mais aussi dans notre slogan plus récent, à la fin des années 80, Propreté de Paris, merci de nous aider. Et sous Jean Tiberi, mon quartier propre, j'y participe. Donc il y a le ramassage des déjections canines, mais ça c'est pour les propriétaires de chiens. Si ça vous intéresse, la neige et la glace aussi, on pourrait en parler. Mais évidemment, je vais m'arrêter sur les collectes sélectives parce que c'est la tâche pour laquelle là il y a vraiment une demande de l'aide concrète des usagers qui est nécessaire pour que ça se passe bien. Alors à Paris, ça commence par le verre au début des années 80, puis le papier, et enfin dans les années 90, les emballages ménagers. Ce qui fait qu'actuellement, les Parisiens, bon, il y a eu 3 bacs différents, maintenant 2 bacs différents dans les immeubles. Pour les emballages ménagers, il y a vraiment une grosse campagne de distribution de guides, d'affiches, car la mairie a conscience, dit-elle, qu'un véritable changement de comportement est demandé. On demande vraiment aux usagers de faire un pré-travail pour les éboueurs, de trier les déchets. Cet appel à la participation active a aussi pour but de contenir les dépenses, puisqu'effectivement, si les usagers participent, c'est autant de tâches en moins, de dépenses en moins pour la mairie. Il s'agit aussi de les responsabiliser. Déjà en 1984, l'adjoint de la propreté s'emportait, je le cite, « Il est faux de laisser croire que le service de propreté peut tout nettoyer. Ce n'est pas vrai. C'est aux Parisiens aussi à prendre en main la propreté de leur ville. » Quant à Jean Tiberi, en 1996, il déclare « On n'améliorera pas toujours la propreté par l'acquisition de matériel nouveau. Il est essentiel que les Parisiens acceptent de mieux relayer l'action des services municipaux. » On est en 1996, toujours les mêmes discours. Donc je vais finir par cette idée d'usagers enfants gâtés, je vais parler aussi un peu des éboueurs, et de voir qu'il y a une indiscipline persistante. Alors, comment expliquer que malgré toutes les campagnes, et quasi permanentes, à certaines périodes, c'était pendant quelques mois, et puis là, c'est pratiquement tout le temps qu'on a des panneaux appelant à respecter la propreté de Paris. Donc, quelques pistes de réflexion pour expliquer cette indiscipline. En 1985, la propreté de Paris a mené une étude sur ce qu'elle appelle le concept de propreté des Parisiens. Elle a interrogé des Parisiens pour savoir ce qu'ils pensaient de la propreté. Et alors une majorité déclarait « oui, on sait que les usagers doivent respecter la propreté ». Mais en même temps, apparaissait le sentiment d'une responsabilité, je cite, « diffuse et transférée ». Leur geste individuel, noyé dans la masse, devient moins important. En gros, on n'est pas un papier de plus ou de moins. Alors vous allez me dire, et la répression, puisque les infractions au règlement sanitaire peuvent faire l'objet de contraventions de procès-verbaux. Dans les faits, elles se heurtent à des problèmes juridiques et matériels. Déjà, jusqu'à 1987, c'est seulement la police qui peut verbaliser. Alors la police, elle a autre chose à faire. Ensuite, les inspecteurs de propreté peuvent verbaliser, mais c'est le problème matériel du flagrant délit. C'est-à-dire, oui, ils voient les déjections canines, mais hormis prendre le propriétaire sur le fait, bah, c'est difficile de remonter à celui qui a commis l'infraction. Donc en gros, peu de PV sont donnés, je ne développe pas, mais voilà, c'est un échec. L'indiscipline persiste aussi parce que certains considèrent que le service leur est dû. Jacques Chirac rapporte une anecdote, on est en 1990. Il y a quelque temps, voyant tout à fait par hasard un monsieur sur le trottoir qui jetait un papier dans le caniveau alors qu'il y avait une corbeille à 10 mètres, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu très aimablement, « Monsieur le maire, il y a des gens qui sont payés pour les ramasser. » Et il me l'a dit tout à fait spontanément. Il y a là quelqu'un qui n'a pas compris, et c'est l'immense majorité de nos concitoyens, que finalement, c'est lui qui paye en bout de course, que de surcroît, il perturbe, et qu'enfin, c'est l'affirmation d'un mépris à l'égard des autres, aussi bien de ceux qui ramassent que de ceux qui regardent. Donc en fait, selon beaucoup de Parisiens, l'idée c'est qu'ils peuvent salir, puisque la mairie va nettoyer derrière eux. Ils peuvent d'autant plus salir que c'est eux qui payent, parce que ce sont les contribuables. Du coup, contrairement à ce que dit Jacques Chirac, je pense qu'ils sont conscients, et en fait, comme on les a aussi induits un peu à se penser comme des clients, qui, voilà, donc ils se comportent comme des enfants gâtés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisque c'est eux à la fin qui règlent la facture. Et alors l'expression « enfant gâté », j'ai mise entre guillemets, parce que c'est un observateur étranger qui le dit des Parisiens en 1995. Il dit « voilà, la propreté de Paris est assez bien gérée, il y a de gros moyens, mais les Parisiens n'en ont pas toujours conscience ». Juste une image, parce que comme ça, du coup on essaye un peu de les culpabiliser, ces Parisiens enfants gâtés et individualistes. Voilà, là, ça c'est 99. Vous avez raison de ne pas les ramasser, elle le fait très bien à votre place. Et donc, alors, soit une personne handicapée, soit un enfant, qui se retrouve à jouer donc avec des déjections canines, puisque les Parisiens ne les ont pas ramassés. Donc là, l'idée, c'est un peu de culpabiliser hein, ces Parisiens indécrottables, si je peux faire un jeu de mots, sur le comportement de saleté. Enfin, quelques mots, puisque Jacques Chirac a en parlé du mépris qu'il y avait pour les éboueurs. Et justement, il faut voir que... il y a des relations refroidies entre les usagers et les éboueurs. Pendant longtemps, il y avait eu des liens assez forts, puisque l'éboueur était une figure du quartier, il était connu des riverains, et même un cadre m'a raconté, donc un cadre qui est entré à la ville en 76, donc il m'a raconté que notre éboueur, quand il passait devant les commerçants, il était reconnu, il était salué, et même il y avait des bistrots qui lui réservaient un coup de rouge, un marchand de sandwich qui donnait un sandwich de temps en temps. Alors l'idée c'est la gratitude, mais c'est aussi que parfois les éboueurs faisaient des petits services, par exemple descendre un encombrant à la place de l'usager qui devait lui-même le mettre sur le trottoir. On pourrait parler, c'est un système vraiment informel là, qui permettait aux services de bien fonctionner. Ça perdure récemment. Une anthropologue, Michèle Jollet, les a vus en 2000, donc ces échanges entre les éboueurs et les permanents du quartier, et le fait que les éboueurs s'arrêtaient encore au café. Mais au fil des décennies, il y a eu des liens qui se sont desserrés, pour plusieurs raisons, je vais en citer que quelques-unes. Bon, il y a le changement des modes de vie, un recul des relations de voisinage dans les grandes villes, moins de concierges, etc. Donc effectivement, il y a un peu une coupure, on ne connaît plus forcément les éboueurs de son quartier, alors que c'était le cas avant. Mais surtout, c'est parce que les éboueurs ont changé d'image. Les saisonniers, leur grande grève, bon, elle gênait, mais il y avait encore de la commisération. C'était en gros des immigrés venus faire le sale boulot mal payé. Parisiens, voilà, étaient un petit peu solidaires. En revanche, après les grandes grèves, les boueurs parisiens étaient fortement revalorisés. Ils ont obtenu de fortes augmentations de salaire, leurs conditions de travail ont été améliorées avec la mécanisation, le nouvel uniforme. Et du coup, ben, ils sont parfois apparus comme privilégiés, un peu le métier sous-payé, surpayé. Et la mairie a un peu contribué aussi au discrédit. C'est-à-dire que la mairie, certes, elle a revalorisé, parce que qui a donné les uniformes, qui a donné les augmentations de salaire, c'est la mairie. Mais en même temps, la mairie se méfie de la force des éboueurs. Ils sont capables de bloquer une grande ville, ils sont capables. Jacques Chirac, juste élu au printemps 77, je ne sais plus combien de temps après, mais 2 ou 3 semaines après, les éboueurs se mettent en grève pour l'embêter. Donc voilà, il ne faut pas que les éboueurs gênent la politique de propreté. Donc la mairie, voilà, essaie de les couper de la population. Par exemple, une brochure de 79, distribuée aux usagers parisiens, s'intitule « Au service des Parisiens, le nettoiement de Paris, son fonctionnement, ses problèmes ». Et on montre bien la hausse des salaires des éboueurs, leur absentéisme, etc. Et donc, du coup, voilà, avec les usagers, hein, c'est des relations un peu refroidies pour cette raison et pour d'autres. Et les relations se passent moins bien. Des sources font état d'usagers qui s'adressent à des éboueurs comme aux membres d'une domesticité urbaine, ou bien qui les agressent, qui projettent sur eux leur colère, etc. Ou bien qui leur reprochent de ne pas assez travailler. Et justement, alors, il y a une école de la propreté pour les éboueurs parisiens et on leur fait faire un jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, c'est Un habitant qui vient tout juste de recevoir sa feuille d'impôt remarque deux balayeurs ont caché leur balai dans un coin et entrent à la dérober dans un café. Une discussion se crée, est-ce que je paye tous ces impôts pendant que le personnel municipal passe son temps dans un bar? Ça, c'est autour de 1995. Et donc, en fait, les usagers, qui sont devenus, ces contribuables, ces usagers clients, ont pris l'habitude de regarder ce que font les éboueurs, s'ils travaillent bien ou pas, et donc de voir comment la mairie dépense leur argent. Alors, en un mot de conclusion, on voit que depuis les années 80, le public parisien a gagné une place accrue dans les questions de propreté. L'institution se soucie davantage qu'avant de sa satisfaction, et elle l'a su au moyen de sondages. La promotion des usagers se lie aussi dans la décision de la mairie de prendre leur avis pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En même temps, je l'ai dit aussi, les usagers restent des citoyens à qui on demande de coproduire ce bien commun qu'est la propreté. Et on voit que même sur les demandes de plus participer, en fait, ils continuent à se montrer peu disciplinés. Et là, il y a une question plusieurs raisons, mais c'est un problème un peu insoluble, ces comportements inciviques. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.